place de l'Évêché. On est le 7 octobre 2022 devant l'espace culturel et du Diwa. Qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui, Cora?
Eh bien aujourd'hui, c'est la restitution festive de notre diagnostic. Toute l'année 2022, là, on a enquêté auprès des habitants sur plein de thématiques. Et aujourd'hui, on fait la fête avec les habitants pour raconter un peu tout ce qu'on a entendu, comment on a compris les préoccupations. Et donc, on le fait sous forme de foire, de jeu. L'idée, c'est que par le jeu, ben, on s'intéresse à des sujets, puis on va un petit peu plus loin et on peut discuter avec les personnes, regarder les expos, écouter des témoignages sonores, découvrir de la documentation, diverses infos. Du coup, il y a plusieurs thématiques. Donc, il y a tout un stand sur l'entraide, là, qui propose des enregistrements audio sur les envies d'agir des habitants. Tous les petits bateaux des assos, là, qui sont suspendus à un parasol. Des arbres qui symbolisent aussi comment, dans nos racines, on puise nos énergies et nos moteurs pour s'engager et puis tout ce que ça nous apporte. Il y a un stand sur la transition écologique, où on vous propose de comprendre les enjeux climatiques et de voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du Diwa. Il y a tout un stand jeunesse avec plein de jeux pour les jeunes principalement et un peu les moins jeunes. Donc pareil, il faut aller explorer.
Et donc là, on va aller explorer tout ça. Eh bien, merci Cora. Allons voir, donc, allons entendre plutôt ce que, du coup, l'ESCDD avec tous ses partenaires vont proposer aux habitants et aux habitantes du Diwa.
Bonne foire.
Et alors, le premier stand où je m'arrête, c'est celui d'Amélie Sou, du quartier Cocose, et où tu n'es pas seulement habitante, je crois.
Oui, tout à fait, Vincent. Depuis janvier, je travaille pour le Comptoir des Lettres, une association qui m'a missionné sur l'animation de groupes d'entraide et la mise en place d'espaces de gratuité ou de discussions autour de la gratuité. On a lancé un travail sur un diagnostic, plus précisément sur le pouvoir d'agir des habitants de Cocose. Ce travail s'est créé en partenariat donc, avec l'espace social, la corderie, le CCAS, les écrivains publics, toujours de l'espace social. J'espère que je n'oublie personne et puis bien évidemment avec l'implication d'habitants. L'idée c'était d'aller voir un petit peu comment les habitants de ce quartier arrivent à s'approprier leur existence dans le quartier, comment ils peuvent agir sur les problématiques qu'ils rencontrent ou non, et qu'est-ce qui fait problème surtout. Donc, on a créé avec la commission entraide des pouvoirs d'agir des EVS, parce qu'il s'avère que nos agendas coïncidaient, donc on s'est dit qu'on pouvait travailler ensemble. En plus, j'étais impliquée dans cette commission de l'espace social et des différents EVS qui renouvellent leur projet. Donc, on a créé un petit guide d'entretien collectif qui a été plus détaillé pour les habitants de Cocose. Et c'est avec ça qu'avec les écrivains publics et des accordeurs, on a été recueillir la parole des habitants. Donc aujourd'hui, on vient vous présenter ce travail avec donc nos deux immeubles, la tour de Cocose et le bâtiment Le Poney. Et vous pouvez découvrir derrière nos petites fenêtres des informations, alors soit des petits bouts d'analyse qu'on a tirés de ce recueil, soit de la parole d'habitants.
Ah oui, je pourrais demander à cette dame, tiens, bonjour, je fais un petit reportage là sur ce que mène Amélie Sou dans le quartier Cocose, et je vous propose d'ouvrir une de ces petites fenêtres et puis d'en prendre est-ce que vous pouvez me le lire?
J'aime bien chez moi, j'aime...
On l'a refait.
Je me sens bien chez moi. J'aime ma vie et mon appartement. J'y vis depuis 40 ans et je ne compte pas en partir. Je trouve qu'il fait bon vivre à Cocase. Zut. C'est à Cocose, c'est ça. Je me sens bien chez moi. J'aime ma vie et mon appartement. J'y vis depuis 40 ans et je ne compte pas en partir. Je trouve qu'il fait bon vivre à Cocose.
Cocose, vous connaissez?
Non.
Qu'est-ce que vous faites là?
Je suis venue parce que je fais partie des partenaires de l'ESCDD et de certains acteurs du territoire et je viens participer à cette belle fête de renouvellement de projet social.
Quel partenaire êtes-vous?
La Fédération des centres sociaux.
Alors, bon, ben, la Fédération des centres sociaux, ils ont une mission, j'imagine, essentielle. C'est laquelle ?
Il y en a plusieurs, notamment d'accompagner le réseau, de représenter le réseau, d'accompagner les dynamiques bénévoles et de soutenir le pouvoir d'agir des habitants, notamment. Donc la FEDE ne sait pas lire.
Mais non. La FEDE tente plein de choses et évidemment...
Et trois fois pour lire 15 mots, quoi.
Mais c'est un jour de fête, donc tout va bien. Merci beaucoup.
De rien.
Donc le pouvoir d'agir des habitants de Cocoz. Comment ils vivent à Cocoz ? Ben ça, on en saura un peu plus dans quelques temps sur les ondes de Erdiwa. Bonjour madame. Vous habitez dit ?
Poyol.
Et le quartier de Cocoz, tiens, vous connaissez ?
Oui.
Et qu'est-ce que vous avez comme idée ou sentiment vis-à-vis de ce quartier, donc Cocoz ?
C'est un lieu d'habitation. Je connais un petit peu, mais après, je ne suis pas plongée dedans, en fait. Moi, je ne fais que y passer. J'y ai travaillé un petit peu chez des gens. J'ai vu que les logements étaient assez vétustes. Voilà tout ce que je peux dire. Je trouve ça très bien, la matériothèque.
Ah, il y a la matériothèque à côté, oui.
Je vais souvent. Oui, voilà, monsieur Vincent.
Notre travail, ça a été déjà dans un premier temps de donner la parole aux habitants, puisque c'est aussi un quartier qui se sent souvent isolé, mis de côté. Donc par le fait de travailler sur ce diagnostic, on ouvre une parole, on ouvre la possibilité d'être vu, d'être entendu, et aussi de prendre conscience par le fait de cette prise de parole. Prendre conscience que d'abord tout n'est pas que problème, qu'on a effectivement mis en place des ressources. Par exemple, les personnes qui se sentent isolées, ben, elles ont des stratégies comme se mettre sur un banc ou sur un muret pour rencontrer des voisins. La maman qui est débordée à la maison avec son enfant qui réclame beaucoup d'attention va inviter d'autres enfants qui paradoxalement vont occuper son enfant et lui permettre de se détacher sur son travail ménager, sur voilà, les choses qu'elle aura à faire de son côté. Plein de petites choses comme ça. Mais aussi de voir qu'il y a aussi des problématiques systémiques sur lesquelles on peut trouver des leviers, mais pour lesquelles voilà, on a besoin de se mettre ensemble, hein, de faire groupe et de se mettre au travail ensemble sur des choses qui nous relient.
Qu'on habite à Cocoz ou ailleurs, en tous les cas, on peut s'inspirer les uns les autres.
Il y a plein de choses qui sont transversales et qu'on retrouve... En tout cas, quand on vient questionner le pouvoir d'agir, on voit bien qu'il est dans de multiples aspects de la vie.
Ah ben tiens, des gens que je connais.
Eh ben moi c'est Jordan, je travaille sur le programme Petite Ville de Demain pour la ville de Die.
Et moi c'est Anne-Valérie Duc au service logement économe porté par les communautés de communes.
Deux actions un peu différentes, bien sûr, mais qui vont à un endroit peut-être se rejoindre. Alors d'abord, vous, la mobilité dans le Diwa, hein, c'est bien ça?
Oui, allez, effectivement, on avait fait une action sur la mobilité, un diagnostic sur les pratiques et les usages des habitants et des usagers de Die, qui s'est traduit par une grande enquête et une carte géante de Die sur laquelle on a questionné les gens lors du forum des assos, effectivement.
Et alors là, aujourd'hui...
Je viens en tant que partenaire et je viens rencontrer justement mes collègues sur des thématiques. Et là, on était en train de parler habitat et amélioration de l'habitat dans le centre-ville de Die.
Alors moi, ce que je fais, en fait, c'est des visites à domicile où j'apporte des conseils pour économiser l'eau et l'énergie au quotidien. Donc on est plus sur les usages au quotidien dans le logement. Donc moi, j'ai plus axé sur comment on peut réduire à travers des gestes simples et à travers du petit équipement que je remets gratuitement en faisant le point aussi sur le contrat, voir s'il est adapté. Donc l'idée, c'est de réduire les factures. Et après, j'ai aussi des collègues qui accompagnent les propriétaires dans les travaux de rénovation. Donc c'est complémentaire, en fait. Il y a comment économiser l'énergie à travers la rénovation et puis comment économiser aussi à travers les gestes du quotidien, les petits équipements chez soi.
Et vous, en même temps, ben, ça vous permet peut-être de faire un état des lieux un peu de ces logements et de les voir l'état dans lequel ils sont.
Oui, parce que il y a donc à la fois évidemment dans les équipements dans le logement, il y a aussi le bâtiment. Donc, et après, c'est toute la question de un locataire qui n'a pas trop la main sur le bâtiment, il peut déjà agir dans le quotidien. Et puis après, nous, si besoin, on peut aussi contacter le bailleur pour essayer de l'inciter à aussi engager des travaux de rénovation énergétique pour agir sur le plus long terme.
Et vous avez dressé peut-être des premiers bilans de l'état un peu général des logements ADIE ou c'est, j'allais dire, en cours de réalisation?
Alors moi, je suis arrivée au mois de juin, donc assez récemment, et je n'ai pas encore fait de visite parce que je suis sur les trois communautés de communes, Val-de-Drôme, la 3CPS et la communauté de communes Pays d'Idiwa. Et pour l'instant, je n'ai pas encore fait de visite sur le Pays d'Idiwa, donc je suis là aussi pour faire connaître justement le dispositif du service logement économe. Donc là, je pourrai difficilement faire un état des lieux du Diwa.
Voilà, donc si des locataires ou des propriétaires veulent faire appel à vos services de conseil et d'accompagnement, ben c'est ici qu'on peut vous trouver, mais peut-être que vous avez aussi une adresse et un bureau.
Oui, bah, je pense que le plus simple, c'est de contacter notre service qui s'appelle Service public intercommunal de l'énergie avec un numéro qui est 09 70 59 05 15 et qui redirigeront selon si c'est un projet de rénovation ou une visite à domicile sur les petits équipements. Après, voilà, on redirige vers le bon service.
Et tout ça, j'imagine, pour aider les locataires et les propriétaires, enfin, à vivre mieux.
Bah oui, l'idée, surtout dans un contexte actuel avec une hausse du coût de l'énergie, où la question va se poser de savoir si on va pouvoir se chauffer en fait, cet hiver. Donc l'idée, oui, c'est de trouver des pistes pour pouvoir quand même être quand même bien chez soi, sans se retrouver à 12 degrés chez soi. Donc l'idée, c'est quand même aussi puis d'amener oui, les bailleurs aussi à prendre conscience aussi de cette nécessité de rénover aussi leur logement. Oui, oui. Sachant qu'il existe des aides financières et pour les propriétaires bailleurs et pour les propriétaires occupants.
Donc, allons-y.
Je m'appelle Martine. Je tiens un stand sur l'habitat, le logement. C'est un stand qui présente les résultats d'un forum ouvert qu'on avait fait au mois de juin. Donc, forum ouvert, ça veut dire participation totale des habitants qui ont proposé les sujets, qui ont animé, qui ont fait la synthèse de de ce qu'ils ont dit. Et je propose aussi de l'information sur de la cohabitation intergénérationnelle solidaire.
Qu'ont dit donc ces habitants au sujet de leurs habitats?
La première chose qui est ressortie, c'est le besoin de partage d'informations. Sur tous les dispositifs d'aide à la rénovation, sur les droits des locataires, des propriétaires, sur l'accès au logement temporaire. Enfin, toutes les questions qui relèvent de l'habitat, ils trouvent qu'il n'y a pas les informations nécessaires pour qu'on puisse trouver les ressources qu'il faut quand on en a besoin. Ils ont exprimé aussi un besoin d'accessibilité pour des logements qui sont adaptés pour des personnes en situation de précarité sociale, économique, pour les personnes exilées, réfugiées, pour les travailleurs qui sont saisonniers, il y en a beaucoup dans le Diwa, les personnes handicapées, voilà. Donc là, ils ont exprimé vraiment un besoin criant de tout ce type de logement. Ensuite, ils ont parlé beaucoup d'insalubrité, des problèmes qui sont persistants dans le vieux centre du DI. Il y a des passoires thermiques, il y avait eu des témoignages de murs, d'appartements qui coulaient l'eau et qui... Enfin, des gens qui vivent dans des lieux où, qui leur amènent des problèmes de santé par la suite. Et il y a un groupe aussi qui a voulu réfléchir sur le développement des nouvelles formes d'habitat. Parce que c'est vrai que maintenant, la maison en pierre qui va servir plusieurs centaines d'années à la même famille, devient un peu obsolète parce qu'on ne vit plus du tout de la même façon. Et donc, ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de réflexion sur ce type de forme d'habitat plus léger et collectif aussi. Voilà. Donc ça, c'est des grandes idées qui sont ressorties de ce forum ouvert.
Et pour ce qui est donc des nouvelles formes d'habitat, vous vous proposez aussi, donc je crois dans une association, de tenter de faire se rencontrer des personnes dites âgées avec des plus jeunes, de les aider peut-être à vivre ensemble.
Oui, alors ça peut être des personnes âgées, mais ça peut être aussi des personnes moins âgées. L'important, c'est que ce soit des personnes qui ont envie d'être solidaires avec des plus jeunes, et qui ont une chambre, au moins une chambre à mettre à disposition pendant un temps précis, soit pour un stage, soit pour une formation, soit quelqu'un qui a un CDD, des gens qui viennent aussi pour l'année scolaire au lycée, en BTS. C'est ce genre de personnes-là qu'on aide à héberger.
Donc que ces jeunes gens qui ont besoin de logement puissent profiter de l'accueil d'habitants, d'habitantes du Diois, mais aussi du coup que ces hébergeurs, disons, puissent profiter, j'allais dire, de la jeunesse de ces arrivants.
Oui, oui, ça, à chaque hébergement, on se rend compte qu'il se passe des choses incroyables entre les hébergeurs et les hébergés. Et des hébergeurs qui, au départ, disent « Ah non, moi, je fais ça pour être solidaire, j'ai besoin de rien ». Finalement, après, quand on va les, parce qu'on va les voir assez régulièrement, quand on va les voir, on les trouve en train de faire de l'informatique avec le plus jeune, d'apprendre, de lui apprendre à faire un gâteau, enfin des choses comme ça. Et il y a des échanges, obligatoirement, il y a des échanges qui se mettent en place qui n'étaient pas du tout prévus au départ. C'est superbe.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Donc, forum ouvert, habiter le Diois. Là, je m'approche du stand commission mobilité. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui se présente à moi.
Bonjour.
Excuse-moi, je ne me rappelle plus de ton prénom.
Marie. Cette commission mobilité, elle a été beaucoup animée par l'espace social, donc le SCDD, avec notamment le projet de transport d'utilité sociale qu'ils ont pu développer ces deux dernières années. Et aussi par l'espace de vie sociale Val-de-Quin qui a développé des projets voilà, autour du vélo partage et de l'autopartage. Et dans les retours un peu et des usagers et des bénévoles et des personnes qui se déplacent de manière générale dans le Diois, il y a vraiment cette idée que bah, il y a quand même encore toujours ce manque d'accès à DIF, hein, qui est le centre urbain, et que ça serait vraiment utile de pouvoir mutualiser des véhicules, par exemple mutualiser des véhicules qui appartiennent à des associations ou à des clubs de sport, par exemple, des choses comme ça, de pouvoir faciliter le nombre de navettes qui pourraient faire des trajets les jours de marché. Alors quand on dit navette, c'est pas forcément un minibus ou un bus, hein, ça peut être par exemple à l'espace social, il y a des véhicules 9 places qui sont utilisés voilà, pour des déplacements de personnes. À Val-de-Quin, on a une voiture 7 places. Enfin, voilà, c'est favoriser ces véhicules qui existent déjà pour permettre cet usage qui est d'aller des vallées un peu éloignées au centre de Die pour des personnes qui sont nombreuses à prendre leur voiture toute seule pour y aller, ou même des personnes qui n'ont pas la possibilité d'y aller parce qu'elles n'ont plus l'usage de la voiture, parce qu'elles sont trop âgées ou qu'elles ne se sentent plus de conduire, par exemple.
Il s'agit là peut-être du coup d'inventer, de créer de nouvelles habitudes.
Alors c'est ça, c'est en même temps c'est créer, c'est inventer, en même temps c'est ça commence à se faire, tu vois. Enfin là depuis 2 ans, il y a quand même l'espace social qui a créé ce service qui met en relation des conducteurs bénévoles avec des bénéficiaires qui vont avoir des rendez-vous médicaux ou des courses alimentaires à faire et qui ne peuvent plus faire ces déplacements eux-mêmes. Donc c'est en fait s'inspirer aussi de l'existant pour pouvoir le développer sur d'autres vallées. Par exemple Val-de-Quin a une voiture qu'elle propose en autopartage. Bah, plutôt qu'avoir cet usage individuel de « je vais réserver cette voiture même si elle ne m'appartient pas » pour faire des déplacements, pour éviter peut-être la deuxième voiture, c'est de se dire est-ce qu'on remplirait pas à plus nombreux ces véhicules-là qui existent, et du coup renforcer les initiatives qui émergent, j'ai l'impression depuis 2019-2020, qui commencent quand même à avoir des initiatives un peu de partout qui se développent, mais voilà, c'est comment on peut toucher plus largement les habitants du Diois et surtout comment on peut mobiliser aussi plus de conducteurs bénévoles. Enfin voilà, on se rend compte qu'il y a des trajets qui sont faits, mais on n'a pas forcément l'info de qui les fait. Et voilà, comment on facilite j'ai mon voisin qui va tout le temps à tel créneau faire ses courses, et on pourrait le faire ensemble ce trajet et remplir peut-être la voiture à 5, 6 ou 7. se déplacer autrement, sortir un peu du schéma de la voiture individuelle qui consomme beaucoup, qui coûte très cher. Il y a plein de frais cachés en fait qu'on ne prend pas en compte. Bon, on se rend compte quand même, on sent bien l'augmentation du prix du carburant. Mais il ne faut pas oublier aussi que quand on se déplace en voiture tout seul, bah, on est aussi tout seul à payer l'assurance, les réparations, l'entretien, l'amende de stationnement parce qu'on ne s'est pas bien stationné, parce qu'il y avait beaucoup de place et que... Enfin, tu vois, c'est tout s'imbrique. Et alors que si on mutualise les trajets, on divise le coût, en plus c'est du lien social, et au-delà de mutualiser les transports en voiture ou en navette, il y a aussi se mettre au vélo, c'est hyper agréable quand on a la capacité physique de le faire, et voilà, enfin, on sait bien que c'est des longues démarches de changement de pratique, mais on est à l'extérieur, on entend les oiseaux qui chantent, on fait un peu de sport au passage... ça nous met en forme, ça maintient une petite forme physique, on partage des pratiques avec d'autres cyclistes. C'est comment accompagner tous ces changements de pratiques. C'est vrai que du coup, ça implique de changer un peu nos temporalités, de peut-être prendre un peu plus de temps sur ce déplacement, mais au passage, on a pu faire un peu de lien avec... avec une voisine, par exemple, qui est un peu âgée et qui n'a pas forcément tout le temps de discussion, de contacts sociaux. C'est l'occasion d'apprendre un peu plus à la connaître, d'être une oreille attentive. Ça peut être l'occasion de dire « Ah, mais toi, en fait, tes courses, tu les fais là, ah, ok, ah, ça me donne des idées, je ne savais pas que tel produit je pouvais... » Moi, je ne sais pas, je dis des trucs un peu comme ça n'importe comment, mais on prend plus de temps, mais on s'enrichit aussi de la fréquentation des autres. Quoi.
Merci beaucoup, Marie de l'espace de vie sociale Val-de-Quin.
Je suis Marité et j'ai secondé Noélie sur cette mission de diagnostic de territoire sur le thème de l'éducation.
Je suis Caroline et je travaille avec Noélie sur le secteur parentalité.
Alors, on est allé effectivement à la rencontre des parents du Diwa pour faire un petit état des lieux de comment ça va les parents, quels sont leurs besoins, tout ça. Et notamment, on a diffusé un questionnaire auquel 220 parents ont répondu. C'est difficile à synthétiser parce que c'est énorme. On est allé interroger les parents sur différentes thématiques. Par exemple, sur la question de la communauté éducative, pour savoir s'ils se sentaient plutôt isolés ou plutôt soutenus, entourés dans leur rôle de parents. On retient quand même qu'un parent sur cinq déclare se sentir seul ou très seul dans son expérience de parent. Et sinon, une donnée intéressante, c'est que pour eux, leur principal soutien, c'est vraiment leur père, les autres parents, les échanges entre parents. Et de pouvoir partager sur ce qu'ils vivent, c'est vraiment leur soutien le plus précieux. Avant toutes les données logistiques, matérielles, etc.
Et d'ailleurs, à l'ESCDD, il y a un atelier, on pourrait le dire comme ça, de parentalité.
Il y a différentes choses autour de la parentalité. Il y a notamment un lieu d'accueil enfants-parents qui s'appelle Bleu Hamac et qui accueille les enfants entre 0 et 6 ans, accompagnés d'un adulte dont ils sont proches. C'est tous les lundis matins de 9h à midi et tous les vendredis de 15h30 à 18h30. Et c'est un lieu qui est très ouvert, on vient pour la durée qu'on veut, faire un peu ce qu'on a à y faire. On peut être entre parents à discuter ou échanger avec les accueillants-accueillantes. Les enfants, ils peuvent aussi découvrir un espace qui est aménagé pour la toute petite enfance. Il y a des jeux, des livres, de la dinette, de la pâte à modeler. C'est sans inscription. On vient pour la durée qu'on le souhaite.
En fait, d'une manière transversale, il y a quelque chose qui nous a vraiment touchés. C'est qu'on a eu l'impression que pas mal de parents se fixaient des objectifs multiples et énormes, presque inaccessibles. Comme si les parents devaient être au top sur tous les fronts. Et du coup, on a pas mal de témoignages du genre des parents qui voudraient avoir 8 bras, des journées de 48 heures, se multiplier par 3 pour avoir un qui assure auprès des enfants, un qui a une vie professionnelle, un qui fait du sport. Et voilà, ça nous a un peu questionnés sur le côté mission impossible.
Alors moi, l'avantage que j'ai de ne pas avoir été là pendant tout ce travail de diagnostic, c'est arriver après, un peu toute fraîche et après avoir fait autre chose pendant quelques mois. Et ce que je trouve intéressant dans le fait de revenir, c'est que je découvre les données qu'elles ont recueillies avec un regard un peu nouveau. Et moi, ma première réaction quand Marie m'a témoigné là, de ce qu'elle vient de partager, c'était... Comment ça, le désir, il est de vouloir avoir plus de bras plutôt que de diminuer les endroits où on est engagé. Je me suis dit, c'est vraiment le levier plus réaliste que de faire plus serait de faire moins. Et je trouve que ça raconte beaucoup sur quelque chose de... au-delà des questions d'éducation, ça raconte aussi sur quelque chose de l'ordre de l'époque, du contexte, où voilà, tout est rempli et... Et du coup, on a du mal à atteindre, en effet, tous nos objectifs.
Ce qui met en pression donc, les parents qui, du coup, peuvent se sentir en difficulté et même dans des situations parfois, j'imagine, sérieuses. Quoi.
Oui, et ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont plusieurs parents à témoigner que de vivre dans un endroit où on a pas mal de propositions alternatives pour les enfants, où on est assez connecté sur la communication bienveillante, toutes ces choses-là qui sont plutôt positives à leurs yeux, mettre quelque part la barre encore plus haut pour être des parents encore plus au top avec effectivement cette notion de pression sociale de barre vraiment haute. Et peut-être pour équilibrer tout ça, on peut finir quand même avec une petite note positive. Globalement, les parents trouvent que le Diwa est un territoire vraiment propice pour élever des enfants, autant concernant le cadre de vie que toutes les propositions qui sont faites en termes d'activité, d'accompagnement, et puis aussi sur la notion d'entraide et de solidarité entre les parents. Ça ressort notamment dans les petits villages isolés, où les parents se regroupent pour accompagner les enfants à l'école, assurer les repas de midi, aller aux activités, tout ça.
C'est vraiment l'enjeu pour moi, c'est d'inventer des espaces, des dispositifs qui viennent permettre aux parents parfois de souffler ou de partager, de se sentir moins seul, de pouvoir avoir des espaces de rencontre. Moi, je suis convaincue que c'est vraiment l'échange qui vient aussi nourrir ce qui se passe à l'intérieur de nos maisons, de pouvoir partager avec les autres comment ils font, quelles sont leurs stratégies, leurs outils, leurs supports. Donc voilà, c'est d'inventer des espaces soutenants et où les enfants sont inclus, puisque voilà, ils font partie de ces vies. Et du coup, moi, je trouve que c'est intéressant de penser des espaces où ils sont inclus.
La parentalité en un mot. Donc je lis. Magnifique, intéressant, heureux, top, amour, merveilleux, génial, palpitant, épanouissant, richesse, vivante, motivante, parfaite, vie, tonifiant, rêve, sagesse, passion, extraordinaire, art du quotidien, grandir, sécure, bonheur, magnifique et épuisant, arc-en-ciel, des grands bonheurs et des inquiétudes, un travail d'équilibriste, labyrinthe joyeux, la plus belle et la plus difficile de ma vie, tempête enrichissante, antagoniste. Ah, éreintant, stressant, éprouvant, chiant, bouleversant, énergivore, épuisante, solitude, cluc, dur, fatigant, compliqué, pas de repos du tout, inquiétude, débordée. Oh là là.
Je m'appelle Michèle Papin, je suis coprésidente de l'Espace Social, également appelé ESCDD, et je suis en charge du secteur transition écologique, citoyenne et solidaire. Sur 10, actuellement, c'est écrit, regardez sur cette fresque, les gens demandent extinction des lumières la nuit, des bacs à compost dans beaucoup de quartiers, des espaces conviviaux, des ateliers de réparation de vélos qui soient ouverts en permanence, des ateliers bois pour qu'ils puissent en fait retaper leurs meubles, mais qu'il y ait des outils qui soient, les ateliers qui soient tout prêts, outillés on va dire. Bien entendu, des pistes cyclables, dès qu'on sort de Die et qu'on part dans le Diwa, des pistes cyclables souvent séparées des routes, on pourrait trouver des petites routes parallèles. Bon voilà, non, sinon ils citent que 10 watts existent par rapport aux panneaux photovoltaïques. Voilà, c'est à peu près tout ce que les gens demandent pour le moment.
Alors là, on est sur Di, mais pour ce qui est du Diwa.
Tout à fait. Il y a un panneau donc, qui a été rajouté qui s'appelle « Et dans le Diwa ». Mais pour le moment, personne ne l'a rempli. Il n'y a peut-être pas d'habitants du Diwa qui sont venus sur notre stand, je ne sais pas. Hormis la piste cyclable qui rejoint le Diwa, c'est tout ce qu'on a pour le moment. Mais bien entendu, l'espace social, c'est Di et le Diwa.
Transition écologique, citoyenne et solidaire, ben peut-être qu'il va falloir du temps. C'est tellement vaste.
Ouais, c'est très très vaste, c'est vrai. Après, je crois qu'il faut partir par des demandes précises. Par exemple, faire des bacs à compost, c'est une demande précise, mais qui peut mettre en relation les gens sur un quartier, par exemple, dans une rue. Où est-ce qu'on met le compost? On décide ensemble, on fabrique ensemble. Tout ça, ça fait du lien social. Et quand on a créé quelque chose ensemble, peut-être qu'ils ont envie, les gens auront envie de faire encore autre chose ensemble. Donc je pense qu'il faut commencer par des petites choses et puis on va aller vers les grandes choses. Puisque nous ne votons pas les lois, donc autant essayer de fabriquer des choses sur notre territoire.
Nous ne votons pas les lois, mais c'est aussi sans doute une occasion de transmettre peut-être aux plus jeunes et de les entendre eux aussi d'ailleurs vis-à-vis de ces questions-là.
Tout à fait, il y a un groupe d'ados qui s'est monté, hein, vous le savez, sur le collège-lycée. Hein. Donc on va les rencontrer et on va voir si l'espace social peut les aider à faire aboutir des projets qu'ils auraient en cours. Il n'y a pas de souci, c'est aussi notre mission. Continuons dans la joie et la bonne humeur.
Oh, le joli petit salon.
Ah, un salon pour attirer le chaland.
Ah ben, je suis attirée complètement. Alors là, je me trouve où, s'il vous plaît?
Ici, c'est la jeunesse. Alors, c'est des jeunes entre 10 et 21 ans déjà, jusqu'à 23 ans même, qui ont répondu au questionnaire qu'on leur a fait passer. Et on a quand même recueilli une centaine de témoignages, un petit peu plus. C'est pas mal pour le Diwa. Donc des jeunes de tout le Diwa, et en gros, bon, nous on a quand même distingué plusieurs catégories. Il y a quand même, on va dire, les moins de 15 ans, les plus de 15 ans, parce qu'ils n'expriment pas tout à fait les mêmes choses. Il y a des choses qu'on retrouve, mais il y a aussi des spécificités. Et puis il y a aussi un peu quand même des différences entre les filles et les garçons sur certains sujets, même si justement nous, notre boulot c'est de décliver tout ça, quoi. Voilà, donc bah, en fait, les jeunes, c'est un peu comme les adultes dans le Diwa. Ils repèrent les mêmes forces et les mêmes faiblesses, c'est-à-dire ce qu'ils préfèrent, c'est la montagne, la rivière, les copains, les balades, le calme. Et puis, ce qu'ils regrettent, c'est qu'ils n'aient pas de visibilité pour après le lycée, qu'ils doivent partir pour les études et pour travailler, que les distances sont longues... Même pour se voir entre copains le week-end, par exemple. Eux, ils ne sont pas forcément véhiculés, donc c'est encore plus compliqué. Ou alors, ils se font emmener par les parents et c'est une charge supplémentaire pour les parents. Ou ils font du stop tout ça, mais bon, voilà, ils ne sont pas tous à égalité du tout. Ça, c'est plutôt pour les jeunes qui vivent dans les villages. C'est à peu près la moitié. Hein. Et l'autre moitié, elle vit à Di, et eux, ils n'ont pas tout à fait même son cloche. Ils disent que c'est plutôt facile, au contraire, socialement, de voir les copains, tout ça. Et par contre, ils partagent les mêmes inquiétudes sur le fait d'un moment être obligé de quitter le Diwa pour faire sa vie ailleurs. Je pense que c'est un phénomène qu'on retrouve dans d'autres villes où, de toute façon, à un moment, les jeunes y partent. Mais c'est pas tout à fait pareil d'avoir le choix que d'être vraiment forcé de le faire parce qu'il n'y a pas de débouché, en fait. Voilà, c'est un peu ce qui ressort. Et sinon, nous, on leur a surtout demandé aussi leurs besoins. Qu'est-ce qui leur manquerait ici pour que justement nous on puisse débattre ensemble si on peut aller dans cette direction-là, leur proposer des projets autour de ces besoins-là. C'est beaucoup des activités. Donc, alors, il faut s'entendre par activité, parce que nous, en éducation populaire, on va se dire « Ah, super, ils veulent des activités, on va faire des sorties, des balades, des tournois de basket, j'en sais rien, enfin, plein de trucs super chouettes, des grands jeux. » Et en fait, oui, d'un côté, ils veulent bien ça. Ils veulent bien aussi des activités régulières. Hein, tous les mercredis soirs, je vais à mon club, etc. Mais ils veulent aussi, en fait, des activités de consommation. Qu'il y a beaucoup moins ici.
Par exemple ?
Par exemple, le bowling, le laser game, le karting, le cinéma. Alors oui, il y a un cinéma ici, mais ce qui ressort dans les questionnaires, c'est que d'après eux, la programmation, elle n'est pas adaptée à la jeunesse. En tout cas, ce qu'ils disent, c'est ah, c'est soit pour les enfants, soit pour les vieux. Et c'est comme ça qu'ils le disent. Hein. Ils mâchent pas leurs mots. Voilà. Donc en gros, voilà, oui, ce qui leur manque, c'est des sorties entre copains où ils vont pouvoir aller dépenser un petit peu d'argent de poche. Et forcément, évidemment, c'est vrai que nous, quand on y réfléchit, bah, c'est aussi nous ce qu'on aime bien faire de temps en temps avec les copains. Aller boire un verre, et eux, ils peuvent pas aller boire un verre ici parce qu'ils seront pas servis dans un bar, parce qu'ils sont mineurs. Voilà, donc des activités et un lieu. Alors que ce soit des lieux protégés ou des lieux à l'extérieur, ils aimeraient bien avoir des lieux à l'extérieur autres que juste le skypark ou les bords de la Drôme. Des lieux où s'abriter aussi, parce que forcément l'été, la Drôme c'est sympa, mais l'hiver c'est moins rigolo. Et dans les lieux abrités ressort le concept d'un espace, donc d'un espace clos qui ressemble un peu à ce que nous on va leur proposer ici, parce que ici, bon bah ici c'est l'espace jeune quand même, on leur offre justement un espace avec salon, salle d'activité, etc. Mais on n'est pas ouvert toute la semaine, donc ça correspond pas toujours à leurs impulsions. Qui sont très fortes à cet âge-là, c'est-à-dire c'est souvent dans l'instant. C'est au moment où on a envie, on en a l'impulsion que les choses doivent être présentes pour se réaliser. Si à un moment, un coup de blues un lundi soir, j'ai besoin d'aller m'abriter quelque part, papoter avec un copain, il pleut, on est dehors, on n'a pas envie de rentrer à la maison parce que chacun rentre chez soi, on ne se voit plus, bah, ils n'ont nulle part où aller en fait. Voilà. Ils sont chez eux, chez leurs parents, mais ce n'est pas complètement chez eux. Ils n'ont pas l'intimité que nous on peut avoir quand on est maître de nos vies en fait, voilà. Et puis nous on va boire un café avec nos copains et voilà, on trouve un moment de discuter, mais eux ils n'ont pas l'argent de poche, donc voilà, c'est ce qu'ils réclament, un lieu pour les jeunes en gros.
Est-ce que vous avez là actuellement à l'espace jeune un projet solidaire et de voyage comme vous avez eu dans le passé?
En fait, ces projets-là, c'est pas nous qui les avons, on les accompagne quand il y a une demande des jeunes. C'est-à-dire c'est les jeunes qui viennent vers nous avec un... Alors, ça peut commencer avec un ou deux jeunes ou directement avec un groupe plus constitué. Ils viennent vers nous en disant voilà. Alors soit la demande est très ciblée, soit elle est un peu vague, ils ont surtout envie de faire quelque chose ensemble, ils savent pas quoi exactement. Et nous c'est là qu'on va les accompagner pour les aider à organiser eux-mêmes et non pas à leur place. Ce projet-là, en les aidant à se réunir, en leur donnant des outils de gouvernance, en les aidant à affronter qu'est-ce que c'est faire un dossier, le présenter à une mairie, demander des subventions, enfin voilà, tout ce qui est un petit peu lourd ou impressionnant à porter, même pour une petite asso d'adultes, par exemple. On peut aussi les aider à se constituer en asso, parce qu'il faut savoir que les assos de mineurs sont permises aussi, voilà. C'est pas tout à fait la même législation, mais c'est possible. Donc s'il y a des jeunes qui écoutent, sachez que vous pouvez monter votre propre association. On peut vous aider pour ça. Et aussi, par exemple, pour gagner un petit peu de sous pour compléter le budget. Donc voilà, s'ils veulent faire une vente de gâteaux au marché, bah, nous, on va avoir le matériel, on va avoir la cuisine. Ils viennent avec leurs recettes, leur volonté. Et puis, ils font leurs gâteaux, ils tiennent le stand. Et puis, ça les rend très fiers de pouvoir financer... eux-mêmes leurs projets. Donc pour répondre à la question, actuellement il n'y en a pas, mais c'est toujours en cours en fait. Voilà. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement où on se dit bah allez tous les mois d'août on part en voyage. Voilà. Nous on va plutôt organiser des événements rassembleurs pour les stimuler en fait, pour créer, comment dire, pour leur faire prendre conscience que c'est possible, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des fantasmes comme ça, mais ils se rendent pas compte que leurs fantasmes peuvent être réalisables. Ils pensent que c'est beaucoup trop loin à atteindre, qu'ils sont trop jeunes. Donc voilà, nous on va créer des événements ponctuels, des rencontres pour les faire se rencontrer, pour qu'ils nous rencontrent nous, qu'ils nous connaissent, et pour justement recueillir ce type d'envie de projet.
Eh bien, merci. Et puis je t'ai demandé ton prénom.
Non, c'est Floriane.
C'est Floriane. Ok, merci Floriane. Alors là, je me trouve à la commission Bien Vieillir. Ah ouais.
Les gens qui venaient étaient contents de vieillir. On a eu une bonne part de retraités très heureux de l'être. Et qui nous disaient que ça avait changé, que c'était nouveau d'être un retraité heureux.
Et alors, qu'est-ce qui rend heureux quand on est retraité à 10?
Mais j'ai l'impression que le temps de faire et le temps de faire ce qu'on veut, elle joue beaucoup pour eux. Du temps pour soi, pour faire ce qu'on a envie de faire. C'était ça, la retraite heureuse.
Malheureusement, toutes les personnes dites âgées ne sont pas heureuses. Et on en a rencontré un certain nombre durant cette semaine bleue.
Ouais, j'ai noté qu'il y avait des inquiétudes avec leur logement. Le logement qui ne convient plus, avec des escaliers qu'il faut monter, ou alors qui est trop isolé, ou trop grand, ou vétuste, ça c'est revenu. Les soucis avec des inquiétudes liées au logement, alors pas forcément pour maintenant, mais pour un peu plus tard, quand ils seront un peu plus vieux. Des choses très différentes aussi dans la relation aux autres. Certains pour qui la relation aux autres est très nourrissante, et puis d'autres qui sont beaucoup plus dans l'intimité avec eux-mêmes. C'est des rapports très différents. Il y avait ça aussi.
Je suis allée rendre visite l'autre jour à l'atelier tricot qui a lieu à l'ESCDD et j'ai trouvé ce moment tout à fait chaleureux.
Bah ouais, puis en plus l'atelier tricot, c'est les petits frères des pauvres. Alors c'est vraiment lutter contre l'isolement. C'est comment on vient au-devant des personnes âgées qui se retrouvent en plus isolées. Souvent en plus c'est avec des soucis de précarité. Et c'est vraiment ça, c'est cultiver le lien aux autres et lutter contre l'isolement. Moi, je travaille à la communauté de communes et je coordonne le contrat local de santé qui donne une part importante aussi aux questions de vieillissement, d'autonomie, de handicap. La première chose, c'est prévenir en fait, c'est comment on anticipe, on prévient, on retarde le fait de ne plus avoir d'autonomie. Alors, le fait de ne pas avoir d'autonomie, ce n'est pas seulement un état de fait, c'est aussi la manière dont on est entouré et qui permet qu'on reste autonome malgré tout, en fait. Donc c'est beaucoup là-dessus qu'on travaille, et on travaille beaucoup avec l'espace social, avec d'autres acteurs, avec le département, pour essayer de créer un cadre de vie qui soit favorable à l'autonomie des personnes, même celles qui sont en train de vieillir.
Merci beaucoup.
Je t'en prie.
Bonjour monsieur, vous êtes visiteur, vous êtes chargé.
Je suis visiteur.
Qu'est-ce que vous êtes venu faire ?
Je suis tombé là-dessus, mais vraiment complètement par hasard. Et je prends le temps de regarder ce qui se passe. Il y a beaucoup d'interrogations, des constats aussi de problématiques de transport, des choses comme ça.
Vous vivez à Die ?
Ouais, ça fait 2 ans et demi. Je me sens très bien. J'ai choisi de vivre ici. Alors, je suis originaire du 05, donc pas très loin. Donc, dit, je connaissais un peu. Mais auparavant, j'habitais à Montpellier. Et Montpellier, c'est une ville qui était trop grande pour moi. J'ai eu pas mal de chance parce que je suis arrivé juste avant le Covid. Et je suis tombé sur un appart qui m'a tout de suite plu dans mes prix. Il n'y avait pas encore eu la crise des immobilières en lien avec ça. Et je m'y sens très bien, je peux y accueillir mes enfants. J'ai d'ailleurs ma fille qui est là aujourd'hui. J'aurais bien voulu qu'elle vienne, mais elle télétravaille, elle viendra plus tard. Moi, elle dit, je m'ennuie jamais, quoi, je fais d'abord beaucoup de sport, de la marche, du vélo, du yoga. Et puis ensuite, je vais à la média, je pratique beaucoup la médiathèque, le cinéma, la librairie. Enfin, je trouve que Die a des services très sympas, quoi.
Il y a ce qu'il faut à Die, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose qui vous manquerait, vous ?
Franchement, j'ai des amis. Bon, chez ma compagne qui est restée à Montpellier, on fait les allers-retours. Et c'est très bien comme ça. Je crois qu'on avait besoin de se retrouver chacun chez soi. Donc pour l'instant, il ne me manque rien.
Quand vous avez dit qu'il se pose des questions, quelles questions vous avez retenues ?
J'ai l'impression, c'est des questions qui tournent autour de la jeunesse. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas quoi faire. Je voudrais rester dans le DIY, mais je ne peux pas faire la formation que je voudrais dans le DIY. C'est toutes ces questions-là qui sont à régler. Mais je pense que ce n'est pas particulier à Die. Hein. C'est peut-être ce que les jeunes ont de plus ici, c'est qu'ils ont des parents qui se posent des questions et qui leur ont posé des questions. Et je pense que ça va les aider dans la, conduite de leur vie, quoi.
Oui, parce qu'il va falloir faire des choix. Voilà. Est-ce que je continue à vivre dans un petit pays, disons, de montagne, ou est-ce que je vais dans des villes là où il y a de l'activité, des emplois
Mais toutes ces choses-là, c'est des questions que se posent tous les jeunes, quoi, en zone rurale. Et moi, je viens d'une zone rurale. Donc, je sais ce que c'est. Je suis parti, d'ailleurs, je ne suis pas resté.
Vous vous souvenez pourquoi ? Quelles étaient les...
Je crois qu'on a envie de... Au bout d'un moment, de changer de tête. Parce que les gens qui restent là où on a toujours vécu, ce sont des gens qui, eux, ne se posent pas forcément beaucoup de questions. Et donc, ça, c'est une des raisons qui a fait que je suis parti. Et ensuite, ce que je visais comme métier, il me fallait bouger, quoi. C'était obligatoire.
Et là, vous êtes aussi parti, donc vous me le disiez, de Montpellier.
Eh bien, c'était très bien. Mais d'abord, j'habitais chez ma compagne. Et ça, c'est pas toujours bien bon. Je ressentais le besoin de me refaire un coin à moi. Où je sois tranquille et où on puisse pas me dire t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Et puis Montpellier, il y a beaucoup trop de garrigues. Je préfère la montagne et les arbres comme ils sont ici.
Qu'est-ce que vous leur avez transmis selon vous d'essentiel à vos enfants ?
Je pense qu'on ne sait jamais cacher les problèmes, les difficultés, et on s'est donné les moyens d'en discuter. Ensuite, on a fait des choses ensemble, marcher dans la nature, dans la montagne, et ça, c'est des choses qui ressortent, hein. Ma fille surtout. Ça a été très difficile avec mon fils, mais maintenant, on a une relation qui est vachement bien, quoi. Parce qu'il est arrivé, et je l'ai accompagné parce que j'étais dans la formation, c'est un gamin qui était en échec scolaire. Et moi, j'étais formateur à l'AFPA, la formation professionnelle pour les adultes. Et par deux fois, j'ai réussi à le capter sur des formations qui ont fait qu'il a chopé des compétences, qu'il est monté en compétences et qu'il a pu faire ensuite ce qu'il a voulu, quoi. Voilà. Donc ça, c'est de la belle transmission.
Merci beaucoup.
Merci à vous.